Je vais me nommer, je ne l'ai pas fait la première fois lorsque je suis intervenu. Je m'appelle Claude Duprat, je suis psychanalyste. Norbert Tanguy, vous avez évoqué le travail de ce collègue qui est en même temps philosophe et qui enseigne à Paris 8, au département de philosophie, je crois bien. J'ai assisté à la présentation de son livre. Et il insistait beaucoup sur les ravages de l'évaluation sur ceux qui sont au travail. Et il mettait aussi en évidence que chez le travailleur, disons, laissé dans la liberté de son acte de travail, il y a un savoir à l'œuvre, une invention du geste, et que l'évaluation ne prend aucunement en compte cela au nom d'une norme, et d'une norme qui est largement bureaucratique. C'est tout.
Pour donner un petit prolongement à ce commentaire, Bertrand Ogilvy a travaillé avec des artistes, bien sûr, des plasticiens, des photographes. Et à un moment donné, il est intervenu dans le milieu scolaire auprès de ce qu'on appelle des élèves de classe Ulysse. Alors, je précise que mon épouse Bénédicte est professeure d'éducation musicale, donc je passe beaucoup de temps à l'écouter et je sais à peu près ce qui se passe. Je ne suis pas dedans, mais j'en suis pas loin. Et il a parfaitement illustré ce problème et il propose dans son ouvrage une tactique de résistance qu'il appelle l'inévaluation. Il s'agit d'inévaluer, il s'agit d'affirmer clairement une opposition à ce principe d'évaluation. Pourquoi ? Parce que s'agissant de la formation des enfants, l'apprentissage des enfants, il s'agit de faire émerger des sujets, tous différents. Et donc s'il y a effectivement des dimensions professionnelles, s'il y a des traces, alors c'est un débat que j'ai avec mon épouse assez souvent, elle doit écrire des compétences en musique. Je lui dis, tu as des traces, par exemple des récits ou des dates ou des styles. Mais ensuite, si tu veux évaluer le sujet, c'est par exemple le plaisir qu'il a à chanter ou le port physique quand il va chanter. Au moment où il va commencer à chanter, est-ce qu'il a ce mouvement ? Si tu évalues autre chose que ça, ça ne sert à rien. Et alors, je reviens à la classe Ulysse, ce qu'a fait ce plasticien. Il a pris ses élèves, qui sont donc des élèves qui ont des déficiences, des handicaps moteurs et mentaux, et il a proposé le thème du transport en commun. Et il a mis par terre une toile blanche pour simuler, en fait, un autobus. Et il a dit aux élèves, on fait ce qu'on veut. Bon, et les élèves ont commencé par se mettre à l'intérieur de la toile pour jouer à l'autobus. Puis petit à petit, ils sont sortis de la toile, ils ont pris des tables et des chaises dans la classe et ils ont construit un autobus qui a plein air avec la toile.
Okay. Alain Grimfeld, je suis pédiatre et universitaire à Paris 6. À titre de bref préambule, très bref préambule, chacun connaît la phrase en substance, ce qu'apporte la science, c'est de faire du doute une vertu. Donc en termes de pensée complexe, on est déjà au cœur de cible. Et puisqu'on est dans la renaissance des préfixes aussi, vous connaissez aussi ce que prône Emmanuel Lévinas, si je ne m'abuse, sous le contrôle des spécialistes ici présents, c'est non pas la quiétude, mais l'inquiétude, avec un trait d'union entre un et quiétude. Alors ma question est la suivante, après la première phase des interventions et celle-ci, c'est que dans le cadre de la pensée complexe à laquelle je pense ici chacun adhère, comment ne pas adhérer à cette notion, à ce concept, etc., etc., pourquoi dans le diptyque penser, agir, il n'y a pas l'introduction d'un troisième volet en termes de triptyque qui est penser, décider, et notamment en situation d'incertitude, puisqu'on parle de pensée complexe, et l'incertitude dans ce 21e siècle, en termes de science, n'est pas terminée, elle débute, chacun en est convaincu ici. Pourquoi ne pas introduire donc et ne pas placer ce troisième volet qu'est la décision en situation d'incertitude ? Autrement dit, au plan ergonomique, penser, certes, en situation complexe, décider en situation d'incertitude, avant d'agir, sachant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut, dans ce triptyque triangulaire et non pas circulaire, après et une fois l'action menée, penser de nouveau si l'action ne correspond pas aux objectifs qui étaient poursuivis, pour décider autrement et agir autrement, etc. Donc, dans le cadre, pour se résumer, dans le cadre de cette pensée complexe, pourquoi ne pas introduire le troisième volet d'un triptyque entre penser et agir qui serait décider, et notamment en situation d'incertitude.
Très, très vite, puis je sais que François aussi brûle de dire quelque chose là-dessus. Bon, Agamben, il a séparé le domaine théologique. On ne sait pas combien durera le temps, la fin du temps. Il a bien dit que dans le domaine finalement politique et démocratique, il y a des procédures et effectivement il faut décider. Et on connaît son travail par ailleurs sur Baudelaire. Enfin bon, on sait que c'est pas quelqu'un. Bon, il y a bien deux facettes. Mais on ne mange pas la pensée théologique et la pensée politique. Moi, par rapport à cette question de décision, c'était un peu ma troisième partie. On y est un petit peu. Je vous invite à suivre Dewey, John Dewey. Alors, chez John Dewey, on ne décide pas, mais on enquête. Ça ne veut pas dire qu'on ne décide pas. Ça veut dire qu'on mène en parallèle un processus d'enquête, public inquiry, l'enquête du public, pas l'enquête des experts. Hein. Bon, et donc, forcément, ce processus d'enquête ne va pas empêcher que l'on décide, ne serait-ce que les choses continuent. Mais il va aussi infléchir la route. Et on reprend la métaphore de la toile de Vico.
Oui. Alors, effectivement, un troisième terme, hein, penser, agir. Moi, longtemps, j'ai été sensible à mon ami Bruno Tardieu, qui a été longtemps secrétaire national d'ATD Quart-Monde, qui lui prônait non pas la question de décider, enfin la notion de décider, mais qui était plutôt celle de l'engagement. Et effectivement, l'engagement, ça rejoint aussi ce que Edgar Morin dit, à un moment donné, il faut prendre le risque. Hein. Et prendre le risque, c'est effectivement faire un choix, en sachant que ce choix n'est pas le choix, on va dire, qui va englober toute la définition que l'on a élaborée, qui laisse toute une part d'incertitude, mais où justement, je crois que dans cette question à la fois d'engagement, hein, ce que j'ai dit ou peut-être pas dit, puisque le temps était un peu limité, c'est que dans cette position de se mettre en retrait, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Je décide à un moment donné de faire abstinence de penser, d'agir. Je m'engage sur un terrain où je prends le risque, eh ben, de trouver quelque chose auquel je serai confronté qui sera de l'ordre de l'inattendu. Ça, c'est la première idée par rapport à ça. La deuxième, c'est quelque chose qui est aussi cher dans le cadre du réseau de la complexité, c'est l'idée du chemin faisant. Hein. C'est que effectivement décider, mais c'est pas décider une fois pour toutes, c'est une décider pour avancer quelque part, tout en sachant que chemin faisant on évalue la décision, hein. Et donc on est effectivement dans ce registre où le penser agir s'auto-alimente, hein, où l'action y réfléchit et la réflexion conduit à l'action et ainsi de suite.
D'autres questions? Sinon, moi, j'en ai une pour François. Moi, j'ai bien compris ton cheminement sur la déraison. En effet, quitter forcément tout un repère pour raisonner sur des symptômes, etc., etc. Donc, on voit bien là ton chemin. Après, tu arrives à la notion de corporéité. Et alors là, en effet, on n'est plus dans la raison. Et donc, tu avances l'argument d'une espèce de dialogue de corps à corps. à ce moment-là. Et alors après, je ne sais pas pourquoi il y a Simondon, je n'ai pas fait le lien, parce que là, il y a quand même, et notre collègue des neurosciences, des sciences cognitives peut aborder, il y a quand même tout un secteur qui a fait la mode à un moment, qui est les neurones miroirs, et qui argumente comme ça, d'une compréhension sans raison, sans parole, tout simplement par la corporealité. Alors je pense que c'est un champ aussi qui pouvait explorer et qui est explorable dans le domaine.
Oui. Quelque chose que je n'ai pas dit par rapport à ça, mais qui est un élément de... En tout cas, de non pas de réponse, mais de champ, effectivement, d'investigation. Alors, je ne sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Simondon. Je crois que c'est Muriel Combes qui a écrit beaucoup sur Simondon, qui dit la différence entre la brique et l'individu. La différence entre la brique et l'individu, c'est que la brique, elle n'emporte pas son moule, alors que l'individu, il emporte son moule. Hein, c'est-à-dire que dans la transduction de l'individu, c'est quelque chose, c'est-à-dire, je dis le mot expérience, mais ce n'est pas le bon mot. Hein, je n'ai pas l'autre mot qui définirait ça. Mais cette expérience de transduction, c'est-à-dire où des stimuli font tension dans le cœur, qui apportent de la conscience et qui se traduisent après en connaissance, hein, ça, c'est quelque chose qui se perpétue dans nos relations. On est sans arrêt, notre enveloppe est sans arrêt confrontée à des choses qui viennent de l'extérieur, et y compris, on est sans arrêt confronté à des choses qui viennent de l'intérieur. Hein, la faim, c'est l'individu qui emmène son moule et qui régénère son individuation continuellement. Après, sur le corps à cœur, oui, ma réflexion aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne entre les individus. Simondon a aussi beaucoup critiqué la communication telle qu'elle était prévue par la cybernétique, où il y a un émetteur, un récepteur, et où un message se passe entre les deux. Et il dit, mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que, d'abord, le récepteur, c'est un récepteur sensible. On n'est pas une machine, les individus ne sont pas une machine. Et pour qu'ils puissent comprendre le message, mais y compris pour le récepteur, pour qu'un récepteur ordinateur comprenne le message, il faut qu'il soit programmé pour le comprendre. C'est-à-dire qu'il puisse être en capacité de comprendre le message, de le décrypter et de le recoder si nécessaire. Et nous, on fonctionne pareil. On est dans cette compréhension du message qui est une compréhension sensible et où, dans le message, effectivement, on laisse passer un certain nombre de choses et on en intègre d'autres. Ce qui rend effectivement la communication beaucoup plus laborieuse que la simple communication technique où je dis allô et l'autre répondra allô. Voilà. Donc, dans le corps à cœur, juste pour finir par rapport au corps à cœur, et en reprenant le moule et la brique, on est chacun à un moment donné le moule qui accueillons la matière de la brique, la matière qui va constituer la brique, et en même temps, l'autre, il est aussi le moule qui va accueillir notre consistance, qui va être... notre apport, en tout cas ce qu'on va lui apporter. Et on est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à travailler autour de cette idée de trans-individualité pour aller un peu plus au fond, pour voir quels mécanismes se mettent en jeu.
Je vais répondre aussi à ta question, Philippe. Pourquoi ? Parce que quand on est parti tout à l'heure avec Philippe, l'autre Philippe, acheter des sandwichs, il m'a expliqué qu'il y avait ce matin dans La Croix un très bon article à propos du papier de Villani sur l'intelligence artificielle. Et le journaliste disait, désolé, Jean-Louis, t'aurais dû avoir la primauté de ça par Philippe, mais je vais faire son interprète. Le journaliste disait, Villani se plaint en disant, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans la boîte noire. Et le journaliste, qui ferait bien de faire partie de notre groupe de travail d'ailleurs, répondait et critiquait Villani en disant « ça sert à rien, ce qu'il faudrait c'est qu'on nous explique comment on peut modéliser la boîte noire à l'extérieur d'elle-même ». C'est à peu près ça, Philippe. À peu près.
Bon. On m'a donné le micro pour une petite réaction, là que je... puisque tout à l'heure on a évoqué la décision, l'agir, et à la fois Bachelard, à la fois dit oui. Et bien sûr, la pensée complexe. Et bon, c'est vrai qu'on tend à nous vendre très souvent dans l'art de se déterminer le choix, la décision. Mais si l'on pense à la pensée complexe, c'est plutôt la conception qui est en jeu. Avec Bachelard, la science qui se fonde sur le projet. Donc, j'ai envie de dire aussi bien au plan des idées qu'au plan de l'agir. Je pense que la pensée complexe fait un meilleur mariage, s'associe mieux à l'idée que nous adoptons des lignes de conduite, que nous formons des projets, et donc, à mon avis, le modèle du choix et de la décision est un modèle assez insatisfaisant. Et puisque dit oui a été abordé, quand même, si on agit dans la pensée dit oui, c'est d'abord qu'il faut d'abord penser à un antagonisme avec l'existant. Donc, il faut poser des end in view, des fins en vue. Et donc, il faut penser à un projet. C'est parce que des choses ne nous satisfont pas, et donc il y a un écart entre un existant et des choses que nous aurions envie de faire, qu'on peut envisager d'agir. Et dans la connaissance scientifique, c'est un peu la même chose. C'est parce qu'on est insatisfait d'un certain nombre d'interprétations, représentations, qu'on envisage des conceptions renouvelées d'une interaction avec le monde, un nouveau dialogue. Et donc je pense que, voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est ça, c'est que le modèle du choix et de la décision qu'on nous vend aisément en économie et en management est un modèle qui fait bien trop l'impasse sur la conception, le projet et les lignes de conduite. Voilà, et donc une pensée de l'antagonisme. Parce que la décision, on a l'impression qu'on est des successions de ruptures et que le monde saurait, en fait, décider des ruptures successives. Moi, je dis, c'est pas du tout le cas.
Une question à François Pissochet. Je voudrais savoir si vous êtes inspiré aussi par Paul Ricoeur, « Je comme un autre » ou « Je est un autre » plutôt.
Pardon, Paul Ricoeur.
Paul Ricoeur. Je est un autre.
Oui, effectivement. Je suis passé très vite. Hein. On n'a que 20 minutes. Mais effectivement, il y avait le lien. Dans ma préparation, j'avais fait le lien entre François Julien, qui en fait ouvre les portes sur toute la phénoménologie, et donc de Husserl à Simenon, mais aussi en passant par Merleau-Ponty, Ricoeur et d'autres. Oui. Mais c'est le même groupe de philosophes phénoménologues qui ont essayé de resituer le corps, hein, parce qu'on a le corps et l'esprit, hein, ça c'est la dichotomie qu'on a faite au départ. Bon, il y a à la fois le corps et il y a l'esprit. C'est quand même toute cette famille-là qui a essayé de réhabiliter le corps en disant que l'esprit, il prenait quand même ses racines dans un corps. Hein. S'il n'y a pas un cerveau, s'il n'y a pas des éléments physiques qui se produisent, notre cerveau, il est létal. Hein, et notre esprit, qu'est-ce qu'il élabore, hein. Donc ça, c'est des questions effectivement qui ont poussé un certain nombre de personnes à essayer de retrouver autour des questions d'individuation justement comment ce passage se faisait.
Oui, je voudrais faire quelques remarques. Effectivement, Merleau-Ponty et Lacan, qui étaient de grands amis, on discutait beaucoup du rapport entre le corps et le langage. Et ils ont reconnu l'importance des effets du langage sur le corps, des effets de la parole sur le corps, des effets de symbolique sur le corps. Et Lacan, lui, il a mis plus tard l'accent, mais Merleau-Ponty l'a fait également. Merleau-Ponty, il parlait de la chair. Lacan parlait du corps comme lieu de jouissance, Donc, dans une relation entre des êtres humains, il y a aussi une question de la jouissance de l'un et de la jouissance de l'autre. Et puis, concernant la communication, Lacan, lui, met l'accent plutôt sur le lien social qui est issu d'un discours. Et puis, dans le même temps, il dit que la parole ne sert pas uniquement à la communication, parce qu'elle a en même temps une jouissance. Nous avons une jouissance de la parole. Il parlera même d'une jouissance de la langue, en faisant une distinction entre jouissance et la langue. La langue qu'il écrit en un seul mot. Voilà.
Oui, mais ce n'est pas incompatible. Hein. Je crois qu'au contraire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir relier, pour le coup, rassembler, réunir tous ces regards qui pointent sur quelque chose de précis pour voir justement si l'assemblage que l'on peut faire nous amène à ouvrir un peu notre pensée.
Oui, une petite question à M. Pissochet, là, puisque vous avez invoqué l'Orient et vous avez dit on n'entend que ce que l'on attend. Et est-ce que vous, faisant une expérience de pensée, ou en tout cas, quelle est votre réponse à cette question, est-ce que l'on pourrait imaginer, et là j'invoquerai plutôt Albert Jacquard, qu'il y a des gens qui, par construction, par apprentissage, n'entendent que ce que l'on n'attend pas ? Et ça pose la question de l'universalisme et de notre ethnocentrisme occidental, qui, à mon avis, est extrêmement destructeur depuis quelques siècles.
Alors, moi, je fonctionne beaucoup par association et par image. Quand vous parliez, j'avais l'image du dé l'Iran. Qui, lui, ne dit pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Mais je ne pense pas que le délirant, justement, soit quelqu'un qui dise, en tout cas, qui n'entende pas ce qu'on ne doit pas entendre. Au contraire, c'est quelqu'un... Quand on lit, par exemple, Deleuze, ou qu'on voit... Tous les écrits que Deleuze a fait avec Guattari, je pense que c'est intéressant d'avoir cette idée du délire, que le délire, c'est en fait comme l'artiste. Hein, c'est un peu comme l'artiste qui dit les choses telles qu'il les ressent et qui n'est pas dans la censure dans laquelle la normativité nous met. Hein, et à partir de ce moment-là, si on est dans cette logique, ben ça permet d'entendre justement chez certaines personnes ce qu'elles disent avec acuité ou avec, non j'allais dire vérité, ça serait trop fort, mais avec acuité, mais que nous justement on ne peut pas entendre parce qu'on a été formé à ne pas l'entendre ça.
Je crois que c'est le problème essentiel du renseignement international, c'est qu'à un moment, on a en face quelqu'un qui ne raisonne pas du tout comme nous. Et je crois qu'on a... C'est parce que quand j'ai fait l'épistémologie du renseignement, j'avais posé la question, est-ce qu'on peut faire du renseignement d'une autre manière ? Et les scientifiques de l'HESS, en l'occurrence, ils ont, et tous ceux qui ont répondu à Bedoff ont été hors sujet, parce qu'ils ont dit, vous voulez savoir comment les Indiens font du renseignement ? Comme des Britanniques, ils ont été formés par les Britanniques. Mais est-ce que dans des écoles de pensée dont certaines peut-être peuvent réunir que quelques dizaines de personnes, il y a des mécanismes différents. Et là, je me suis aperçu que même pour des scientifiques, c'était quelquefois très difficile de se décentrer pour essayer pour avoir une empathie en disant la personne qui est mon ennemi, en fin de compte, non, il a un raisonnement, c'est un humain, donc il a un raisonnement, donc je dois me mettre dans sa peau avant de revenir dans la mienne, et là je vais comprendre. Et je crois que j'ai l'impression que dans la science occidentale, ce qui est d'ailleurs reproché peut-être par d'autres, dans certains à l'Orient, eh ben, on a ce problème-là.
Oui.
lorsque le mot de science occidentale a été prononcé. Je vous invite à une expérience intéressante que j'ai faite la semaine dernière. Vous allez chez Erol, boulevard Saint-Germain. Vous descendez au sous-sol, à l'endroit à gauche, là où il y a tous les bouquins de physique. Et vous allez retrouver vos trucs de votre époque, hein, les uns les autres. Mais vous allez surtout remarquer des énormes volumes écrits en anglais par des Chinois sur des sujets passionnants comme les échanges thermodynamiques instables, etc. Et quand vous allez feuilleter ces livres, dès le premier paragraphe, premier chapitre, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que la manière dont les scientifiques de Pékin, qui sont des dizaines de milliers aujourd'hui, véhiculent l'axiomatique même, avant de filer dans les calculs et dans les ordinateurs, ne ressemble plus du tout à le discours de Georges Bruat, qui est encore, pour moi, pratiquement presque un challenge à arriver à comprendre ce qu'il dit.
Oui, si vous permettez, j'ai une question autour de la fiabilité. Est-ce que, finalement, la faible fiabilité de nos corps, de nos processus de pensée et des composants techniques qui abondent aujourd'hui autour de nous et dans nous-mêmes, dans nos corps, ne sont pas, sont non pas un obstacle, mais au contraire une condition, la condition de la haute fiabilité de la vie.
J'aurais du mal avec la haute fiabilité de la vie, je ne sais pas trop par rapport à ça. Par contre, la pensée, en tout cas le mécanisme de connaissance, il nous met dans la vie. Hein, ce que Simondon nous dit, c'est que la transduction elle ne, ou l'individuation ne crée pas un individu. Elle crée un couple individu-milieu. C'est-à-dire un couple inséparable. On ne peut pas vivre sans le milieu. Sans le milieu, c'est-à-dire sans tout ce qui nous entoure, nous ne serions pas des organismes vivants. Le vivant a besoin d'être dans ce partage autour de sa membrane. Alors ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de la lumière, au niveau de l'air. On est dans un assemblage. Il parle d'ailleurs de... On est dans une... Il emploie le mot de coïncidence, ce qui veut bien dire ce que c'est. On est dans une vraie coïncidence. On coïncide, nous et le milieu. Et la vie, c'est de là où il dit la vie du corps, parce que l'individuation, c'est ce qui nous donne le sentiment de vie. Mais la vie, c'est tout ce qui se passe chimiquement entre nos cellules et l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il parle du vivant, il ne parle pas de l'homme. Il y a pratiquement jamais le mot homme dans Simondon. Il parle de l'individu, il parle du vivant, mais dans l'individu, c'est celui qui est issu de l'individuation. Il dit que c'est la même chose pour les plantes. Hein. La plante, elle commence par une cellule qui se développe, et dans cette cellule qui se développe, à sa surface, à sa périphérie, elle est en contact avec son monde et elle se met en coïncidence avec son monde. Juste un exemple par rapport à ça, il y a quelques jours. Je vois dans ma pelouse des petits cratères. Je regarde un peu plus, puis ça fait vraiment des petites tulipes à l'envers dans ma pelouse. Bon. J'ai un voisin paysagiste, je vais lui en parler. Il me dit, ça c'est des champignons, il faut les enlever, ça va essaimer partout. Et puis il se trouve que j'ai un ami mycologue, je lui parle de ça. Et il me dit, oh là là, et puis il regarde la photo que je lui montre. Il dit, mais il y a des aiguilles, donc c'est sous un sapin. Alors je lui dis, non, c'est sous un cèdre. Ah, ben il me dit, il faut les laisser parce que c'est des champignons qui partent des racines du cèdre et qui sont en fait un élément de vie pour le cèdre parce que ça fait la liaison entre la racine et le... Ça a à la fois de l'aération et à la fois de l'eau qui tombe dans ses coupoles et qui descendent. Voilà. même phénomène, deux visions contradictoires. Hein. Chacun avec sa science, c'est là où on peut retrouver qu'effectivement, dans sa professionnalité, chacun a sa vision et a sa réponse. Hein. Par contre, moi, j'ai toujours mes trous dans ma pelouse.